Frères et sœurs, très beau texte qui nous est donné en ce 28e dimanche du temps ordinaire, dans l'évangile toujours de saint Marc, que nous lisons chapitre après chapitre tout au long de cette année liturgique qui lui est consacrée. Alors tout simplement, si vous le voulez bien, nous prenons le texte tel qu'il s'offre à nous de cet évangile dans l'ordre. Voilà donc un homme accourt devant Jésus et se met à genoux et il dit « Bon maître, que dois-je faire ?» Alors on ne peut pas soupçonner cet homme de ne pas avoir un désir, une volonté qu'il tente d'exprimer. Et comme chaque fois aussi, Jésus ne va pas répondre directement. Jésus va commencer par détourner le regard de ce disciple potentiel, qui est cet homme qui vient au-devant de lui, sur Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Alors j'aime beaucoup cette réponse parce que le Seigneur Jésus-Christ nous remet toujours en face de la réalité du Créateur. Et donc, le Christ remet cet homme en face de son Créateur et non pas de sa personne humaine. Ensuite, en un deuxième temps, il répond à la question de son interlocuteur qui était « Que dois-je faire pour avoir en héritage, etc. ?» Alors Jésus semble répondre sur le même registre parce qu'il va dire « Pour avoir droit à la vie éternelle, il faut observer les commandements, etc. » comme nous l'avons entendu dans le texte. C'est très curieux parce qu'il ne rappelle pas le premier commandement qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Il va brancher, si je puis dire, tout de suite son interlocuteur sur l'amour de ses frères. Et bien, nous avons entendu dans ce dialogue, l'homme répond « Mais maître, tout cela, je l'ai observé, ces commandements depuis ma jeunesse, etc. » Alors, il semblerait que cet homme se justifie et qu'il attend donc un justificatif, tout simplement, comme une sorte de brevet de bonne conduite, que sans doute il mérite, hein, c'est une affaire entendue, si véritablement il pratique ses commandements depuis sa jeunesse, comme il le dit. Mais là, nous découvrons que le Seigneur n'est pas un maître de doctrine. Il ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire pour être en règle, mais tout simplement, il tente de faire comprendre à cet homme que les commandements de Dieu ne sont qu'une étape à vivre et à traverser pour accéder à la vie éternelle. Et là, c'est très important pour nous, ici-bas, aujourd'hui, car le Seigneur Jésus met le doigt sur ce qui est la faiblesse, pour ne pas dire la fissure, de l'existence de chaque homme au travers de cet homme bon qui vient vers Jésus pour le suivre et s'intégrer au groupe des disciples. Qu'est-ce qu'il manque en définitive à cet homme ? C'est d'être libre. Une seule chose te manque, va et vends tout ce que tu as. Alors, cet homme est tout triste parce qu'il vient de comprendre, il y a une prise de conscience de cet homme, que ses richesses le tiennent comme une ficelle et qu'il est dépendant. On pourrait dire aujourd'hui une sorte d'addiction à la richesse. C'est pour ça qu'il est triste. Et sa tristesse sonne, si je puis dire, comme un aveu. Et le Seigneur ne peut que le constater. Et c'est la suite du texte, il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses, etc. Les disciples, en entendant le Seigneur, et voyant sans doute la scène avec cet homme, sont stupéfaits, voire déconcertés. On voit bien ici que les disciples du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas sur la même longueur d'onde que leur maître. Traditionnellement, la richesse n'est pas vue comme quelque chose de mal. Elle a toujours été considérée comme un cadeau et un cadeau de Dieu. Mais tout simplement, le Seigneur nous demande que la gestion de nos richesses n'entrave pas notre liberté et ne nous ficelle pas comme une sorte d'entrave pour l'exercice de ce que nous avons à faire. La question des disciples, qui pourra être sauvé, peut nous interpeller aussi. La réponse du Seigneur en disant « pour les hommes c'est impossible mais pas pour Dieu » peut aussi surprendre et ne pas satisfaire des disciples comme elle ne nous satisfait pas non plus, forcément. Alors de la part du Christ, ce n'est pas pour nous décourager, c'est au contraire pour nous inciter à aller plus loin dans la réflexion et à véritablement mettre les choses à sa place, par une prise de conscience. C'est de nous poser la question, quelles que soient les richesses que nous pouvons avoir, de découvrir que seul le Seigneur peut nous libérer de ses richesses. Non pas en les jetant par la fenêtre, mais par une prise de conscience d'abord, mais par comprendre que peut-être la question de cet homme riche, que faut-il faire, n'est peut-être pas à nos yeux véritablement bien posée. Pourquoi ? J'allais dire en bon philosophe que vous et moi nous sommes, tout au moins je l'espère, c'est qu'avant de faire quelque chose, nous sommes existants. Les philosophes disent, avant le facere, avant le faire, il y a l'essai, c'est-à-dire l'être que je suis. Et l'être que je suis précède toujours l'acte de faire quelque chose. Et je pense que tant que nous sommes dans l'inverse de ce que je viens de dire, dans faire quelque chose et essayer de vivre les commandements comme une sorte d'avoir pour réaliser ce que j'ai à faire, bien nous sommes à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que la vie éternelle, parce que in fine c'est de cela dont il s'agit, n'est pas d'abord de l'ordre du faire quelque chose, encore moins du mérite. Je ne mérite pas la vie éternelle, je la reçois. C'est ça la grande leçon de ce texte. Je la reçois dans la mesure où je ne suis pas ligoté par toutes sortes d'entraves que dans le texte on appelle ici les richesses. Pour que celle-ci puisse véritablement se mettre en place. Autrement dit, la liberté des enfants de Dieu, quelles que soient les richesses, peut-être très grandes, que nous pouvons avoir, les richesses, ce sont nos talents, ce sont peut-être aussi des richesses matérielles, eh bien, aux yeux de Dieu, ne sont rien par rapport à la vie éternelle, et que nous devons les mettre, ces richesses, à leur place pour qu'elles n'entravent pas la bonne marche de chacun et chacune d'entre nous vers notre salut et la vie éternelle. Voilà, me semble-t-il, la grande leçon. Et puisque nous vivons et nous allons vivre les premières communions d'enfants, ces dimanches d'octobre, ben c'est de leur rappeler que bien l'Eucharistie, la première communion, elle ne se mérite pas. Jésus n'attend pas de faire la comptabilité de nos mérites. Non. L'Eucharistie ne se mérite pas, elle se reçoit. Gratuitement. Mais encore faut-il que cette réception, il faut qu'elle soit totalement dégagée, comme une sorte de piste d'atterrissage de Dieu qui vient et qui doit être complètement libre pour que nous puissions accueillir dans la totalité de la présence du Christ et librement sa présence en chacun de nos cœurs. Voilà la réalité, me semble-t-il, de cet évangile, et qui remet bien les choses à leur place. Nous pouvons être de parfaits soldats du Christ, si je puis dire, pratiquer les commandements, faire tout ce qu'il y a à faire, comme on dit, mais même ces commandements qui sont tout à fait admirables et qui doivent être observés, si ces commandements me ficellent et entravent ma liberté, parce que je les gère mal, parce que je ne les ai pas compris, parce que je ne les ai pas reçus dans la liberté du mouvement de mon cœur et de mon être, bien nous sommes à côté de la plaque, pas du tout sur le même registre de la volonté du Seigneur à mon égard. Alors tentons de bien comprendre que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas observer les commandements. Je pourrais dire que les commandements sont une sorte de balise, d'éclairage du chemin de chacune de nos vies. Il doit être un chemin de totale liberté pour que le Seigneur puisse nous emmener là, dans la liberté de chacun de nos cœurs, là où nous devons être, c'est-à-dire être participant de sa volonté, être véritablement un disciple pour l'accompagner comme lui-même nous accompagne tout au long de notre existence, jusque au port d'attache qu'est la vie éternelle. découvrons, s'il en était encore besoin, la gratuité du don de Dieu, qui elle aussi ne se mérite pas, mais elle se reçoit. Elle se reçoit comme un don précieux. Nous avons donc à nous ouvrir à cette réception du Seigneur qui vient vers nous. Accueillons-le de tout notre cœur et laissons-lui la totalité de la gestion de nos richesses. Amen.